De venir vous parler de Parcoursup. Et donc, j'ai essayé de réunir dans ce diaporama quelques éléments. Je le mettrai à votre disposition. Donc, je ne sais pas trop comment il sera diffusé, mais voilà, vous pourrez aussi retrouver ce diaporama plus tard si ça vous intéresse, puisque en bonne géographe, j'ai mis aussi des cartes, etc. Et en bonne sociologue, j'ai mis aussi des graphiques. Vous allez voir. Alors, en guise d'introduction, je dis juste d'où je parle parce que ça peut vous expliquer un peu comment je construis les objets, et puis mes questions, et puis mes méthodes. Donc, moi, j'ai fait une thèse en géosociale sur les trajectoires étudiantes dans les universités d'Île-de-France, autour de ce que j'appelais la ségrégation universitaire. Et dans ce cadre-là, juste après la soutenance de ma thèse, donc je l'ai soutenue en 2015, j'ai publié mes résultats en 2017, et là, boum, Parcoursup arrive en 2018. Donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas essayer de documenter ce qui se passait avec le passage d'APB à Parcoursup. Aujourd'hui, comme l'a dit Manuel, je travaille moins sur Parcoursup, même si vous allez voir, je continue à regarder les portails d'affectation. Je parlerai de mon master tout à l'heure. Et je documente plutôt les précarités étudiantes, voilà, les mécanismes de précarisation des étudiants et des étudiantes. Alors bon, pour le dire très vite, mon positionnement théorique, c'est que je suis plutôt dans une sociologie bourdieusienne, donc j'ai parlé un peu capitaux, etc. Bon, c'est juste pour vous dire un peu mon vocabulaire, mais qui est un petit peu critique parce que, contrairement à Pierre Bourdieu qui pensait que l'espace, c'était en fait, disons, une manière parfois de faire des erreurs, parfois des effets d'écran, parfois des illusions, eh bien, moi, je pense, avec d'autres, qu'on peut s'intéresser à la dimension spatiale des inégalités scolaires et du coup, y voir des choses voilà, un petit peu intéressantes. Alors, d'abord, je vais vous faire un petit point de contexte très rapide pour parler un peu de ce qu'on sait sur les inégalités d'orientation. Alors, ça va prendre 2 minutes, mais c'est juste pour qu'on partage un peu cet élément en commun et vous rappeler un peu les différentes phases de massification sans lesquelles on ne comprend pas trop à quoi servent ces portails d'affectation. Pourquoi est-ce qu'on met en place des politiques publiques de portails d'orientation et d'affectation? C'est parce qu'historiquement, on est dans des phases de massification successive. Et ensuite, je vous parlerai donc de ces portails en vous faisant une petite histoire des systèmes d'affectation pour vous montrer que Parcoursup, c'est la dernière version de choses qui ont déjà été mises en place précédemment, avec des continuités et des ruptures. Ensuite, je vous montrerai que ces instruments, ils sont porteurs de politiques publiques, alors que souvent on les décrit comme des instruments techniques. Et bah, du coup, on peut voir quand même des choses à l'intérieur qui nous disent un petit peu bah, leur orientation politique, je dirais. Et puis, dernière partie, là, je verrai, selon le temps qui me reste, comment est-ce que j'essaye de vous parler un peu de ces usages socialement et spatialement situés des plateformes. En conclusion, j'essaierai de vous donner un peu les pistes que j'ai, les hypothèses de recherche que j'ai pour une recherche qui débute maintenant collective hein, sur mon master. Alors, en termes de contexte, simplement pour qu'on partage un petit peu cet état de la recherche, il y a beaucoup de travaux de sociologie sur l'orientation, l'affectation, etc. Et donc, moi, les travaux que j'utilise le plus concernant l'orientation, c'est des travaux qui montrent qu'il y a un effet des conseils de classe sur l'orientation des élèves. Donc, c'est plutôt des travaux qui sont basés sur la troisième, mais qu'on peut utiliser aujourd'hui pour montrer que, bah, en fait, les conseils que donnent les enseignants, ça va orienter les aspirations, par exemple, des élèves, etc. Ça marche aussi pour l'enseignement supérieur. C'est des travaux qui vont montrer, là, je pense plutôt au travail de Sophie Orange, qu'il y a un caractère collectif de l'orientation, notamment dans les milieux populaires. Donc, en gros, c'est un résultat ancien de sociologie de l'école et de l'orientation. Mais en gros, quand on peut s'appuyer sur ses parents, quand on est plutôt dans un milieu où il y a du capital culturel, des parents qui ont déjà été faire des études, etc., on a des processus d'orientation plus individualisés que dans les classes populaires, où du coup, on s'appuie plutôt sur les pères pour construire ces orientations. Alors après, j'utilise aussi beaucoup les travaux d'Agnès Van Santen qui, elle, parle de canalisation des aspirations, notamment vers l'enseignement supérieur. L'idée de la canalisation, on voit bien, hein, c'est l'idée d'un fleuve, donc évidemment, ça me parle parce que je suis géographe, je pense. Mais... Donc on voit, on construit des digues, et donc l'idée, c'est que tout doucement, de manière parfois presque imperceptible, des choses vont canaliser les aspirations des élèves et des étudiantes, par exemple à travers qui on invite à des forums d'anciens élèves. Quel est l'affichage qu'on met dans les salles de classe au lycée? Voilà, des choses qui peuvent être assez difficilement objectivables quand on ne fait pas d'observation in situ, par exemple. D'autre part, il y a des travaux un peu plus récents qui m'intéressent beaucoup, notamment ceux qui portent sur les salons privés d'orientation vers l'enseignement supérieur. Et donc, j'en profite pour dire ici qu'il n'y a pas, à part le salon Parcoursup, et qui était l'ancien salon APB, il y a très peu en fait, de salons de présentation de l'offre d'enseignement supérieur en France qui ne soit pas privé. Tout ce qui est organisé par Studierama, l'étudiant, etc., c'est du privé. Et du coup, dans ces salons, la structure même de ces salons favorise l'offre de formation privée au détriment de l'offre de formation publique. Enfin, on a quelques travaux sur AffelNet Parcoursup. Alors, AffelNet, c'est pour le lycée. Je ne sais pas si vous y avez été vous-même confronté pour vous, pour vos enfants, ou je ne sais pas. Et Parcoursup, du coup, pour l'enseignement supérieur. Et alors, la caractéristique en fait, de ces travaux sur l'orientation vers l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a beaucoup de thèses, soit tout juste soutenus, soit qui vont être soutenus. Enfin voilà, on voit qu'il y a un intérêt de recherche pour ces portails d'orientation et notamment pour Parcoursup, puisque là, juste pour Parcoursup, on a les thèses de Marion Valarcher, Esther Göring, Alban Midi, voilà, et puis Ambre Guichard, qui sont soit en train d'être rédigées, soit déjà soutenues très récemment. Alors, je termine ce point de contextualisation en parlant de la question de la massification. Alors, ça, c'est un graphique un peu compliqué qu'on a réalisé avec Fanny Bugéja-Bloch, Marie-Paul Couteau et Mathieu Rossignol-Brunel, dont tu as parlé tout à l'heure, Emmanuel. Alors, est-ce que j'arrive à faire le pointeur laser? Non, bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, mais en tout cas, je vais essayer de vous commenter ça. En gros, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'on a la population en gris, qui est la population âgée de 17 ans, qui pourrait être éligible à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et puis, ce que vous voyez, les courbes que vous voyez en dessous, ce sont les candidats qui sont admis. Donc, présents au bac, c'est la courbe blanche, et admis au bac, c'est la courbe noire. Avec une différence entre France métropolitaine et DOM. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Et puis des ruptures dans les données, puisqu'on a reconstitué ça depuis 1960. Et en gros, ce qu'on voit, donc la légende ne sort pas bien en plus, mais bon, bref, ce que je veux vous montrer avec ce graphique, c'est qu'il y a différents moments d'augmentation. Il y en a un premier qu'on peut appeler la première explosion scolaire qui est autour des années 60. Donc, l'image qu'on a, c'est 1968, hein, donc mai 68, les amphis explosent, etc. Bon, c'est aussi le bouquin Les héritiers de Bourdieu et Passeron. Hein, voilà. La deuxième explosion scolaire qui a bien été documentée aussi, c'est plutôt la fin des années 80. Enfin, ça débute, ça commence à augmenter fort au début des années 80. Il y a la création du bac pro en 85. Et donc tout ça va générer une augmentation très forte des bacheliers. Et puis la troisième, ce qu'on nous on a appelé la troisième explosion scolaire, bon après il y a débat dans la littérature sur ce terme-là, mais en gros, on a une nouvelle augmentation qui se situe au tournant des années 2010 qu'on voit apparaître dans le graphique. Et alors cette augmentation, elle est liée à deux choses. D'une part à la réforme du bac pro, qui passe de 4 ans à 3 ans, ce qui fait que les effectifs de bacheliers diplômés augmentent. Et en plus, les poursuites d'études des bac pro dans l'enseignement supérieur augmentent aussi. Et d'autre part, il y a aussi une nouvelle petite hausse démographique qui est sensible. On voit une petite courbe qui repart au-dessus de troisième explosion scolaire. Et donc cette hausse démographique, elle est liée au fait que les gens ont fait un peu des enfants au début des années 2000. Une fois le bug de l'an 2000 passé, les gens ont fait des enfants. Et donc bah voilà, on a une vague de préfabriqués dans les écoles, puis dans les collèges, puis dans les lycées. Et boum, ça arrive dans l'enseignement supérieur. À quel moment? Bah, quand les gens ont 18 ans, c'est-à-dire au moment de Parcoursup. Bon, donc cette intro était pour vous dire qu'on ne met pas en place les portails d'infectation n'importe comment, on peut les mettre en place notamment dans des moments un petit peu de crise qui peuvent être liés à des crises d'affectation parce que justement, démographiquement, on a trop de monde pour pas assez de place particulièrement. Ça, c'est mon hypothèse forte sur Parcoursup. Alors, je rentre dans le détail de ces systèmes d'affectation et je voudrais d'abord vous montrer que Parcoursup, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une histoire qu'on pourrait appeler une histoire des systèmes d'affectation. Alors là, je parle de l'Île-de-France parce qu'en fait, il y a d'autres systèmes d'affectation qui ont concerné d'autres régions, mais qui sont très peu documentés. Et d'ailleurs, il nous faudrait des thèses d'histoire sur ces systèmes d'affectation. Parce que je crois que c'est Loïc Vadelorge qui avait retrouvé des dessins de sectorisation dès les années 60 sur des vieilles cartes dans des archives, etc. Bref, il y aurait des choses à aller montrer. En tout cas, ce que moi j'ai trouvé en faisant ma thèse, c'est que un premier système un petit peu automatisé d'affectation a été mis en place en Île-de-France à la fin des années 80. Alors, c'était sur Minitel, car à l'époque, on n'avait pas Internet. Voilà. Donc, j'ai l'impression de parler comme une très vieille chose, mais vous voyez l'idée. Ça s'appelait Ravel, pour recensement automatisé des vœux des élèves. Et donc, c'était un truc télématique qui a été mis en place en 87 et qui est devenu obligatoire en 90. Et alors, il concernait des filières universitaires non sélectives, mais dites en tension. Il y en avait 14, donc la psycho, le droit, STAPS, etc. Et pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Parce que, à nouveau, raison historique, on est en plein dans la deuxième explosion scolaire qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a plein d'effectifs à inscrire à l'université. Ça déclenche un grand plan de construction des universités en France qui s'appelle le plan U2000, qui met en place en 90-91. Et ce plan U2000, il construit 8 nouvelles universités en France. C'est énorme, hein, on n'a pas vu ça dans les années 2017-2018, par comparaison. Et donc, ce plan U2000, il concerne notamment l'Île-de-France avec 4 nouvelles universités. Toutes celles qui ne s'appelaient pas Paris quelque chose, puisque maintenant les enjeux de marketing et de label font que toutes les universités rajoutent Paris dans leur nom, mais toutes celles qui ne s'appelaient pas Paris quelque chose, par exemple Cergy, Marne-la-Vallée, Versailles-Saint-Quentin et Évry, donc ces 4 universités-là, c'est des universités qui ont été créées en 90-91. Alors que toutes les autres, Paris 1, 2, 3, 4, etc., elles étaient liées au fait que la Sorbonne se scinde en plusieurs universités bien plus tôt. Bon. Et donc, en créant ces nouvelles universités, il fallait leur créer des bassins de recrutement. C'est-à-dire qu'on avait trop d'étudiants à inscrire, pas assez de place pour tout le monde, donc créer des nouvelles universités. Mais bon, personne n'allait forcément, dès la première année, aller s'inscrire à l'université de Versailles qui venait d'ouvrir. Bon. Donc, on crée des bassins de recrutement avec une logique de sectorisation qui est basée sur la commune de passage du baccalauréat. Alors, je vous montre une première carte. Cette première carte, elle consiste à vous dire que cette sectorisation, elle fonctionne d'une manière un petit peu... Alors, moi, en entretien, on m'a parlé de marchandage de tapis pour créer cette sectorisation. Donc, en fait, les communes de passage du bac sont réparties entre les présidences d'université pour certaines filières. Donc là, c'est une moyenne que j'ai faite en calculant combien d'universités, une, deux ou trois, on propose en moyenne pour l'ensemble des filières. Et donc, vous voyez qu'à Paris, les nouveaux bacheliers, les néo-bacheliers, ils ont plus de choix globalement qu'en première couronne. Et vous voyez aussi, par contre, c'est ça qui est intéressant géographiquement, c'est qu'il y a des écarts qu'on n'explique pas très bien. C'est-à-dire, il y a des arrondissements centraux parisiens où en fait on propose un petit peu moins d'universités. Il y a des communes dans le 93 où d'un coup, boum, on se retrouve avec un petit peu plus de propositions. Bref. Donc on voit que c'est une sectorisation qui est un peu à géométrie variable et qui a été faite en fait filière par filière. J'aurais pu vous montrer une carte de droit si vous voulez, si on a le temps tout à l'heure, je vous montrerai ça. Mais en gros, il y a une répartition qui est faite entre les universités, notamment pour le droit. Ce qui se passe, c'est qu'on voit que tout l'Ouest parisien est plutôt sectorisé vers Paris 2 Assas et que tout l'Est parisien est plutôt sectorisé vers Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec le 18e qui est aussi sectorisé vers Paris 8 Saint-Denis. Ce système-là, il est remplacé, donc il est vraiment francilien, il fonctionne que pour l'Île-de-France. Il est remplacé par un système national, on change d'échelle d'affectation, en 2009 en Île-de-France. Alors APB, ça existe depuis 2008 pour toute la France, mais on a attendu 2009 pour l'implanter en Île-de-France, parce que l'Île-de-France est un gros morceau. Donc voilà, fallait pas faire planter la machine, fallait d'abord vérifier que ça marchait bien. APB, son histoire, elle est intéressante, parce que contrairement à Ravel, qui était créé pour affecter à l'université, pour éviter des files d'étudiants qui faisaient la queue devant la Sorbonne, etc., avec des malaises, les pompiers qui intervenaient chaque année, etc., contrairement à ce système Ravel, qui avait une origine universitaire, APB, son origine, c'est les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Il a été créé à la base, c'est un système qui a été créé pour les écoles d'ingénieurs, qui a ensuite été étendu aux classes préparatoires, et qui ensuite a été étendu à l'enseignement supérieur en général. Donc ce système est en fait inadapté à l'enseignement universitaire, qui correspond à plus de la moitié des inscriptions dans l'enseignement supérieur. C'est ça la beauté de cette politique publique. Alors ce système d'admission post-bac, quand on regarde dans la LRU, on voit qu'il peut être analysé dans une sorte de dynamique politique qui est plus large au milieu des années 2000, qui consiste en la promotion du libre choix scolaire. Alors, ce n'est pas que moi qui le dis, hein, d'autres personnes, je crois que Marco Oberti est venu vous parler plus tôt, donc ça, c'est aussi une thématique importante pour Marco Oberti. Ce qui se passe, c'est qu'en 2007, donc c'est l'élection présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, Sarkozy Royal, il y a un débat sur la carte scolaire en 2007. Et donc, les deux candidats, donc, y compris Ségolène Royal, disent « Ah non, mais ça ne va pas du tout la carte scolaire, il faut en reparler, le choix de l'école, c'est important ». Les classes populaires se sentent prisonnières de leurs établissements du secondaire, etc. Et donc, il y a vraiment un mouvement au milieu des années 2000 qu'on appelle de promotion du libre choix scolaire, très critiqué par les sociologues par ailleurs, on pourra en reparler, mais qu'on retrouve dans admission post-bac. Au sens où, dans tout le lexique, on a cette question de la liberté de s'inscrire, du désir, des préférences. Voilà, ce qu'il faut, c'est maximiser les préférences, etc., des candidats et des candidates. Alors, cet APB, comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, il fonctionne à partir d'un algorithme de matching appelé des mariages stables, mis en place, donc on retrouve en référence dans la littérature dès 1962 dans un article de Gale et Shepley. Alors, le principe, qui parlera peut-être plus à certains d'entre vous qu'à d'autres, mais c'est qu'en gros, on a deux listes de vœux, deux listes ordonnées qu'on fait se correspondre en essayant de maximiser ce qu'on appelle des mariages stables, c'est-à-dire des associations qui vont satisfaire les deux côtés. Première liste, c'est la liste des candidats. Chaque candidat a hiérarchisé ses vœux. Premièrement, je voudrais faire du droit, ensuite peut-être de l'histoire, ensuite peut-être de la géo, peut-être ensuite de la socio. Voilà, ça c'est une liste hiérarchisée avec des établissements, etc. Et de l'autre côté, on a toutes les formations, donc l'histoire, la socio, la géo, les classes prépa, qui font des listes de candidats. Bon. Sauf que, comme vous l'entendez là, ça implique que les formations fassent des listes, qui n'est pas tout à fait le cas dans APB. Mais en tout cas, le principe de l'algorithme de matching, c'est bien de faire correspondre deux listes, la liste des candidats et la liste des formations. Alors, ce matching, il fonctionne en trois phases en procédure normale, dans laquelle on va donner le meilleur mariage, le mariage le plus stable possible et le plus joyeux possible aux candidats. Donc, première phase, l'algorithme tourne et on vous dit votre meilleure proposition dans votre liste de vœux, c'est que, ah mince, on vous donne votre vœu numéro 8 sur 12. On vous propose d'aller faire, je ne sais pas, de l'histoire à Évry. Vous dites, oh non, ce n'était pas vraiment ça que je voulais. Bon, je reste dans la machine, je remets une pièce. Vous passez à la deuxième phase. Et en fait, le système de libération des places et de l'affectation fait que quand on fait retourner la machine, ça peut vous permettre de remonter dans votre liste de classement. Bon, je ne vais pas y passer un temps infini, mais vous voyez un petit peu l'idée. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, dans ce système, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout fait pour les filières universitaires, comme je vous l'ai dit, puisqu'il faut que les formations fassent des listes de candidats. Et ça, c'est un truc de filière sélective, qui vont classer les classes prépa, les écoles, etc. Les universités, elles sont dites non sélectives. Et du coup, il n'y a personne pour faire des listes de candidats, en fait. Tant qu'il y a de la capacité d'accueil, on inscrit que les gens aient un bac technologique, un bac pro, un bac général. On ne regarde pas ça. D'ailleurs, on n'a pas les personnels pour le faire. On verra que ça pose problème ensuite. Et donc, pour les filières non sélectives, les ingénieurs se disent, bon, tant qu'il y a de la capacité d'accueil, on va créer une liste aléatoire. Donc, on va demander aux admissions post-bac de faire un faux classement. Et de toute façon, ça ne changera rien, puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, les gens ne seront pas au courant de leur tirage aléatoire, juste ils seront affectés. Le problème se pose quand il n'y a pas la capacité d'accueil pour accueillir les gens et que là, il va falloir vraiment les trier, enfin que le tri ait un effet, quoi. Et donc, dans ce cas-là, le système qui est mis en place, c'est qu'on va essayer de réduire le pôle de candidats pour essayer d'avoir de la capacité d'accueil pour tout le monde. Donc, on va dire, bon, parmi les candidats APB qui ont candidaté, par exemple, pour faire du droit à la Sorbonne, qui est un endroit où il n'y a pas la capacité d'accueil pour tout le monde, typiquement, eh ben, on va regarder seulement ceux de l'Île-de-France, puis seulement ceux de l'Académie de Paris. Mince, il n'y a encore pas assez de place pour tout le monde. On va regarder seulement ceux de l'Académie de Paris qui ont bien rempli au moins 6 vœux dans la plateforme, ce qui était une demande de la plateforme. Il n'y a toujours pas assez de place pour tout le monde. On va regarder parmi ceux-là, ceux qui ont mis le droit à la Sorbonne comme premier vœu relatif parmi toutes les demandes de droit qu'ils ont faites. Mince, il n'y a encore pas assez de monde, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc on va regarder le premier vœu absolu, c'est-à-dire qu'ils ont mis droit à la Sorbonne, c'est vraiment leur premier vœu dans la liste, il n'y a pas de classe prépa avant, etc. Et là, il n'y a encore pas assez de place pour tout le monde, malgré qu'on ait restreint ce vivier de candidats. Et là, on fait du tirage au sort, en partant de ce groupe le plus restreint pour affecter. Donc le tirage au sort qui a été très médiatisé, notamment en 2017, pour mettre en place Parcoursup, c'était un tirage au sort qui concernait en fait à peu près 2% des affectations, hein, sur à peu près un peu plus de 600 000 personnes en néo-bachelier. Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc, en 2017, ce tirage au sort prend une importance médiatique forte. On pourra reparler de pourquoi si ça vous intéresse. Et c'est en lien aussi avec la petite courbe que j'ai montrée en introduction, hein, qui fait que la démographie fait que les places sont plus contraintes. Et donc, on met en place Parcoursup avec la loi Orientation et réussite des étudiants. Et donc, Parcoursup se met en place à la rentrée 2018. Le changement de Parcoursup, c'est qu'on a une fin de la hiérarchisation des vœux. Donc, en fait, il n'y a plus d'algorithme national de matching. Avant, APB essayait de vous donner le meilleur mariage possible entre vos vœux et puis les formations, etc. Ça n'existe plus. Maintenant, on passe à un système qu'on pourrait appeler le système Pôle emploi, finalement. Vous candidatez à des offres et puis les formations vont vous répondre oui, non, etc. C'est elles qui deviennent celles qui font le classement. Mais ce n'est pas vous qui classez vos vœux. Vous candidatez à la Sorbonne en droit en même temps qu'en histoire autre part. Il n'y a pas de hiérarchie dans vos vœux, dans Parcoursup. Ils ne sont plus classés de 1 à 12 comme dans APB. Autre élément important, c'est qu'on va étendre le classement. Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, si on avait étendu ce système de classement dans APB, APB aurait beaucoup mieux marché, sans doute. Voilà, puisque c'était comme ça que fonctionne APB. C'est un système prévu pour des filières sélectives. Et du coup, l'université convenait pas du tout à ce système-là. Et puis du coup, on va enlever ce système d'appariement, mais on va étendre la sélection. Bon, c'est un paradoxe dont on peut discuter, qui est un élément politique aussi. Alors, comment est-ce qu'on étend le classement des candidatures côté formation? Chaque formation, y compris dans les licences non sélectives, va devoir faire un classement des candidatures. Et au final, l'affectation va se faire par ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'entre le mois de mai où le portail ouvre et puis le mois de septembre où ça se ferme en fin de procédure complémentaire, tous les jours, l'algorithme tourne pour affecter des candidats et quand une place est prise, elle est retirée de la capacité d'accueil. Et quand quelqu'un se désiste, la personne qui était en liste d'attente juste derrière elle se voit faire la proposition. Peut-être cette personne se désiste, elle libère la place pour quelqu'un d'autre, etc. Donc le processus d'affectation est beaucoup plus long que dans un processus synchronisé au niveau national. Ça crée aussi du coup des inégalités parce qu'il y a des gens qui attendent plusieurs mois avant d'avoir une proposition, alors que d'autres ont des propositions tout de suite, plusieurs, la première semaine, évidemment, les personnes avec le meilleur dossier scolaire. Alors cet algorithme national, cependant, on continue de l'appeler algorithme, alors que ce n'est plus vraiment un algorithme, c'est plutôt un système de gestion des listes d'attente nationale. Ce système de gestion des listes d'attente, on l'appelle algorithme parce qu'en fait, il y a quand même un système national qui permet de faire remonter des boursiers. Donc il y a un système de quotas. C'est intéressant aussi en termes de politique publique et de mixité sociale, parce que ça n'existait pas dans APB. Et donc, on va faire remonter un certain nombre de boursiers, formation par formation, dans la liste d'appels. Et il y a un autre système de quotas qui s'intersecte avec celui-ci, c'est le système des résidents. Parce que le recteur a toujours l'obligation d'affecter en priorité les bacheliers de l'année de son académie. Ça, c'est toujours écrit dans le code de l'éducation et c'est une vraie contrainte parce que, du coup, par exemple, en Ile-de-France, faut bien essayer d'affecter à Paris les bacheliers parisiens. Ils ont une priorité d'accès. Et donc, cette priorité d'accès, elle s'appuie sur ces quotas, en fait, dans la plateforme. Et alors, le principe de cette plateforme, on en discutait tout à l'heure avec Emmanuel, c'est qu'il y a une boîte noire qui est assez peu documentée encore aujourd'hui parce qu'en fait, c'est très difficile d'accès comme terrain. C'est le travail des commissions pédagogiques qu'on appelle commission d'examen des vœux. Comment est-ce que ces formations classent les candidatures ? Alors, on a pas mal de travaux sur les filières sélectives, puisque depuis longtemps, il y a ce travail de classement qui est en plus assumé, qui est très lié à un discours méritocratique. Voilà. Mais pour l'université, pour les filières universitaires, on a un peu moins de travaux. Alors, je passe au point B. Pour vous parler un petit peu des politiques publiques et de la manière dont ça peut permettre dont ces instruments permettent de lire un peu ces politiques publiques. Alors, dans APB, on avait déjà des principes qui étaient l'orientation active. Alors, l'orientation active, ça veut dire que chaque candidat-candidate est acteur de son orientation. Ça veut dire qu'il doit chercher des informations sur son orientation. La plateforme l'aide. D'ailleurs, les plateformes s'appellent d'orientation et d'affectation. Ce n'est pas seulement des plateformes d'affectation. C'est aussi des plateformes d'information, en fait. On va trouver des infos sur les différentes formations, etc. Voilà. Le principe aussi qu'on retrouve d'APB jusqu'à Parcoursup, c'est la centralisation. C'est bien une plateforme nationale qui centralise toutes les candidatures, toutes les affectations, ce qu'on n'avait pas du tout auparavant. Et puis, il y a aussi un enjeu d'optimisation, alors qui était très fortement présent dans APB et qui, dans Parcoursup, va changer un petit peu de nature puisque ce n'est plus une optimisation algorithmique, je dirais, qui se fait. Alors, Parcoursup, on l'a analysé avec Agnès Van Zanten et Clément Pin comme un renforcement de la tonalité marchande de ces plateformes. Qu'est-ce qu'on appelle renforcement de la tonalité marchande ? C'est qu'en fait, dans Parcoursup, votre dossier scolaire, il pèse plus lourd que dans APB, puisqu'en fait, il va peser aussi pour toutes les filières universitaires, alors qu'avant, il n'y avait pas de remontée de notes pour ces filières-là. Il n'y avait pas de transmission de votre dossier scolaire. Donc, ce dossier scolaire va peser plus lourd. Et en plus, on vous ajoute dans Parcoursup un CV, bon, et surtout un projet motivé pour chacune des formations. Alors, ça a été un peu ajusté dernièrement, mais initialement, en 2018, quand c'est mis en place, on vous fait rédiger un projet motivé pour chacun de vos vœux. Bon, alors qu'auparavant, dans APB, il suffisait de cliquer sur du droit à côté de chez moi, dans l'université d'à côté, pour que vous ayez un vœu et peut-être une proposition d'affectation dans l'université d'à côté de chez vous. Et d'ailleurs, moi, j'ai enquêté des gens dans ma thèse, donc je me suis dit, ma thèse est un peu vieille maintenant, qui s'étaient retrouvés en droit à Saint-Denis, à Paris 8, en venant de bac professionnel, parce que leurs copains, ils avaient des copains dans d'autres bacs qui avaient mis droit, ils se sont dit, oui, pourquoi pas après tout, ils ont cliqué, et bon, ils ont été pris. Et bon, on peut faire l'hypothèse forte que si on leur avait demandé un projet motivé, etc., peut-être qu'ils n'auraient pas candidaté. C'était moins simple qu'un petit clic sur une plateforme. Voilà, donc c'est un peu plus demandeur, un peu plus chronophage, la candidature sur Parcoursup. Alors, il y a plein d'orientations actives dans Parcoursup. Bon, c'était déjà dans APB, hein, mais ça se renforce. Notamment, il y a des formations qui mettent en place des questionnaires pour que vous puissiez vérifier si vous êtes ajusté à la formation. Ça, c'est les STAP, c'est le droit qu'on fait ça très bien, très rapidement sur la plateforme. Ou du coup, on vous fait répondre à pas mal de petites questions pour voir si vous avez un peu une culture juridique, ou si vous êtes un peu au courant que STAPS, ce n'est pas que faire du sport. Hein. Il y a aussi d'autres types de choses dedans. Bon, voilà. Et du coup, l'idée, c'est de vous aider à vous orienter, surtout en vous montrant si vous êtes désajusté. Voilà. Et que si vous ne savez pas répondre à, je ne sais pas, la moitié des questions du questionnaire, peut-être vous dites, est-ce que la licence de droit, c'est vraiment pour moi ? Je rappelle que là, on parle de filières qui n'existent pas dans le secondaire. Hein. Donc, les personnes qui répondent, ça veut dire qu'elles connaissent ces choses, sans doute par leurs parents, en fait, voilà. Puisque ce n'est pas des choses qu'on enseigne, à part dans les filières technologiques, il y a des cours de droit. Et puis, il y a cette question des quotas de boursiers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une tonalité marchande, parce que c'est inspiré des modèles d'égalité des chances plutôt anglo-saxons, enfin, tels qu'on les connaît, tels qu'on les catégorise, qui sont plutôt des manières de promouvoir les individualités dans la mixité sociale, plutôt que des politiques compensatoires, telles qu'on les connaît en France, comme l'éducation prioritaire, etc. Autre truc intéressant de Parcoursup, c'est qu'on peut voir qu'une centralisation est encore plus forte dans ce système-là. Auparavant, APB, c'était géré de manière d'ailleurs tout à fait étonnante par l'INP de Toulouse, puisque ça avait été mis en place par des ingénieurs à la base pour les concours d'accès aux écoles d'ingénieurs, je rappelle hein, l'histoire d'APB. Du coup, historiquement, c'était géré à Toulouse pendant des années, tranquillement, sur des serveurs à Toulouse, etc. Et là, Parcoursup étant mis en place, tout ça remonte sur des serveurs au ministère et du coup, c'est recentralisé. La centralisation, elle se voit aussi dans le périmètre de la plateforme, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup plus de formations dans Parcoursup aujourd'hui qu'il n'y en avait dans APB. Et en fait, il y a d'ailleurs une stratégie du ministère d'intégrer le plus possible de formations niveau L1, avec un débat aujourd'hui sur les questions de label, Calliope, etc., notamment pour les formations privées, parce qu'il y en a énormément. Je rappelle qu'aujourd'hui, le privé, c'est 25% des inscriptions dans l'enseignement supérieur, ce qui est très, 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 très élevé. Voilà. Et autre truc intéressant de Parcoursup, Parcoursup gère les réorientations. Auparavant, vous passiez par admission post-bac, voilà. Et après, si vous aviez par exemple fait une première L1 de droit et que ça ne vous avait pas trop plu, vous pouviez recandidater en L1 d'autres choses, mais vous aviez déjà une L1 derrière vous, par les procédures internes des établissements, ce qu'on appelle les portails e-candidats, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ce genre d'expérience, mais c'était des petites procédures internes, voilà, chaque établissement avait la sienne. Bon. Là, si vous n'avez pas eu votre orientation favorite ou que ça ne vous plaît pas ce qu'on vous propose en première année, il faut repasser par Parcoursup. Alors, quand vous annoncez ça, moi, je suis responsable de L1. Donc, quand moi, j'annonce ça en réunion de direction d'études, bon, celles et ceux qui veulent se réorienter, il va falloir refaire un dossier Parcoursup. Je peux vous dire que j'ai du succès. Voilà, donc il faut refaire un dossier. Et je vais parler des réorientations tout à l'heure. Alors, je passe vite parce que le temps va nous compter, puis j'aimerais bien qu'on ait du temps pour discuter. Mais en gros, ce qu'on dit avec Agnès Van Zanten et Clément Pin, c'est qu'en fait, Parcoursup, c'est un des outils, mais comme plein d'autres, de la dématérialisation du service public, de ce qu'on peut appeler l'e-administration, avec un gros enjeu sur la transparence, la mise à disposition des données, l'open data, la publication de l'algorithme, etc. Et en même temps, ça remplit tout à fait un rôle de modèle gestionnaire, de gestion des capacités d'accueil, où on voit que du coup, il y a un enjeu de cet instrument à aller remplir ses capacités d'accueil, notamment un truc qui est intéressant avec Parcoursup par rapport à APB, je vais le dire maintenant, on pourra en parler plus tard, c'est que maintenant, on ne sait plus combien il y a de premiers vœux pour telle ou telle filière ou telle formation. Dans APB, comme les vœux étaient hiérarchisés, on savait que, je sais pas, en 2016, il y avait tant de milliers de premiers vœux pour faire du droit en France. Et donc, on pouvait voir s'il y avait un écart avec les capacités d'accueil pour faire du droit en France. Et donc, on disait, bon, alors là, par rapport aux aspirations, on a un décalage dans la politique publique. Aujourd'hui, c'est impossible, puisqu'on ne sait pas quels sont les premiers vœux. D'accord ? Et donc, on discute beaucoup avec plein de gens du ministère là, pour essayer de trouver des méthodes. Je dis, mais pas du tout que moi, hein, mais comment est-ce que parmi les paniers de vœux, on arrive à identifier une tendance dominante qui pourrait nous laisser penser que la personne voulait vraiment faire du droit ou peut-être que non ? Enfin, voilà. Bon, c'est quand même assez compliqué en termes de politique publique. J'arrive au dernier point que je voulais aborder sur les usages socialement et spatialement situés des plateformes. Et je vais l'aborder à travers plusieurs points qui sont en fait le reflet de travaux un peu ponctuels que j'ai menés avec différentes collègues. Donc là, c'est un travail avec Marion Valarcher, Marie-Paul Couteau et Fanny Bugé-Jabloc sur la question des réorientations. Je vous montre un peu le portail Parcoursup pour que vous voyez. Alors ça, c'est la version de 2023. Mais en gros, les réorientations, c'est quand même un pourcentage important de ce qui se passe sur la plateforme aujourd'hui. Donc on estimait qu'en 2022, on avait 65% de néo-bacheliers, 21% de réorientation et 10% de reprise d'études sur la plateforme, plus des cas un petit peu phénoménaux de d'autres cas. Mais voilà, en gros, c'est ça les gros flux qu'on a sur la plateforme. Et donc on voit que 21% de réorientation, c'est beaucoup en fait de personnes qui sont dans cette situation. Or, il se trouve que ce qu'on propose sur l'interface, c'est révélateur d'une norme qui est très liée à l'affectation des néo-bacheliers. En fait, la plateforme, elle est faite pour les néo-bacheliers et les néo-bachelières et pas du tout pour les cadres d'orientation. On le voit quand on regarde dossier par dossier ce qu'on a fait pour une université francilienne. On a été regarder chacun des dossiers et comment il avait été rempli, etc. Bon, voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le dossier Parcoursup, il est calé sur une année scolaire. En fait, il faut remplir année scolaire par année scolaire. Donc, dès que vous avez une année qui est coupée, une année un peu de césure, un accident biographique, une dépression, quelque chose, bah, vous ne rentrez plus tout à fait dans les cases. Donc, c'est un peu compliqué. Du coup, il y a plein de gens qui essayent de justifier leur parcours non linéaire et qui utilisent pour cela plein d'onglets dans la plateforme qui sont différents. Je vais vous montrer ensuite. Et puis, le principe de cette plateforme, ce qu'on voit quand on fait un petit peu des analyses quanti, c'est que c'est quand même les notes qui jouent un rôle vraiment central dans l'affectation. Et pour les réorientations, parfois, elles sont mal remontées. Donc, les remontées automatiques ne se font pas forcément très bien pour les réorientations. Et donc, on peut utiliser des notes qui sont en fait très anciennes, alors qu'il y a eu d'autres notes entre-temps, etc. D'autre part, dans cette plateforme, on voit aussi qu'il y a une place importante de tout ce qui est activité extrascolaire, ce qu'on peut appeler l'auto-entreprise de soi. Mais voilà, si vous avez été coach, il faut penser à ce que toutes vos expériences sportives, par exemple, peuvent être vues comme quelque chose de valorisable, etc. Alors, simplement pour vous dire, quand on fait une analyse quali du coup des dossiers, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des étudiantes, des futures étudiantes, qui sont en fait assez désarçonnées par la plateforme. Donc on voit la Chalène qui dit « Dans autre élément lié à ma scolarité, je ne sais pas quoi mettre ». C'est ça qu'elle écrit dans l'onglet de la plateforme. Donc ça veut dire que vraiment, la case ne lui correspond pas. Et d'autres arrivent à essayer de... Donc ceux qui ont... En fait, on peut analyser après leur parcours scolaire antérieur. On voit que ceux qui sont en réorientation, mais avec un peu de capital scolaire, eux, ils arrivent à utiliser un peu le dossier de manière stratégique en utilisant la catégorie « autre », notamment, pour essayer de documenter un peu pourquoi ils sont en réorientation, etc., justifier ça. Et puis, ils utilisent aussi les projets motivés pour essayer de mettre en cohérence leur parcours. Et d'ailleurs, ces projets motivés, nous, on a fait un petit test de compilation sur le taux de plagiat des projets motivés Parcoursup pour cette université francilienne en sociologie dont on avait les dossiers détaillés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le taux de plagiat, il décroît fortement avec le capital scolaire. Donc, plus on est sur des bacheliers généraux et moins on a de taux de plagiat dans les projets motivés, ce qui montre que le projet motivé, ce n'est pas un exercice sociologiquement neutre, comme on sait, évidemment. Bon alors, le problème c'est que la manière dont les candidats remplissent leurs dossiers, ça ne correspond pas tout à fait à la manière dont les commissions d'examen des vœux traitent les dossiers. Parce que, en fait, les candidats ont un ordre d'apparition de différents champs et de cases qui n'est pas forcément celui que la commission va utiliser. Alors là, pour celles et ceux qui ont juste l'audio, ce serait peut-être un peu aride, mais en gros, l'idée, c'est que vous avez plein d'onglets, comme projet de formation, baccalauréat, scolarité actuelle, activité centre d'intérêt, scolarité antérieure, bulletin scolaire, éléments de la fiche à venir, sportif, etc. Et qu'en fait, tous ces éléments-là, chaque commission d'examen des vœux peut faire monter ou descendre les flèches pour les imprimer dans l'ordre qu'elle souhaite, d'accord, en fonction de son processus de tri des candidatures. Sauf que les candidats, eux, sur leur portail, ils n'ont qu'un ordre pour remplir. Et donc, ils ont tendance parfois à mettre des choses un peu comme sur Twitter. Vous voyez, genre 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, parce qu'il y a des limites de caractère. Et donc, pour expliquer des parcours de réorientation compliqués, parfois, ça ne rentre pas dans les limites de caractère pour expliquer votre dépression, etc. Donc, ils mettent des petits numéros qui, en fait, correspondent à pas du tout à ce qui va se passer quand les gens vont imprimer le dossier, ce qui est un problème. Et d'autre part, souvent, les commissions d'examen des vœux n'ont pas le temps de lire les dossiers de manière qualitative. Et du coup, elles vont plutôt avoir un traitement d'abord quantitatif. Or, on a vu que les notes n'étaient pas très bien rentrées pour les dossiers de réorientation. Bon, après, il y a des enjeux de fiches de réorientation, mais ce n'est pas la chose la plus intéressante ici. Au final, nous, ce qu'on a regardé, c'était un petit peu où est-ce qu'il y avait le plus de réorientation dans les affectations, donc quantitativement, à partir des données Parcoursup. Et ce qu'on voit, c'est que plus on est sur des formations avec peu de candidatures, donc avec une possibilité de traiter les candidatures de manière qualitative, bah oui, avoir 50 candidatures à lire plutôt que 3000, c'est vrai que ça permet de traiter qualitativement les candidatures, plus la part de réorientation dans les affectations augmente. Voilà, donc il y a une corrélation entre cette taille de la formation et le fait que les réorientations soient plutôt défavorisées. Je vous donne un autre exemple. Là, c'est plutôt un exemple socio-géographique, ce que vous dites peut-être, mais elle a dit qu'elle était géographe, mais on ne voit pas le rapport. Mais donc, il y a aussi des éléments de la dimension spatiale qui sont intéressants dans Parcoursup. Là, on a comparé un petit peu, donc c'était entre APB 2017 et Parcoursup 2019. Notre idée, c'était de comparer entre Paris et Saint-Denis ce qui se passait en termes de candidature et en termes d'affectation. Et donc, sur le tableau du haut, vous voyez les candidatures. Et ce qu'on voit, c'est que les candidatures en licence entre APB et Parcoursup, elles ont beaucoup diminué. Elles ont beaucoup diminué, notamment en Seine-Saint-Denis. Mais elles ont aussi beaucoup diminué à Paris. On passe de 56% des candidatures faites en licence à 46% dans Parcoursup. C'est beaucoup, hein, en deux ans, cette baisse-là. Et pareil, en Seine-Saint-Denis, on passe de 62% à 33%. Donc là, elles sont carrément divisées quasiment par deux. Et donc, elles se reportent vers des secteurs sélectifs que sont le DUT et les BTS. C'est parce qu'on ne force plus, comme dans APB, le fait qu'il y avait des licences pastilles vertes. Là, on forçait un peu des filets de sécurité à faire des vœux en licence. Et ce qui est intéressant, c'est la comparaison avec la figure qui est juste en dessous, qui est l'affectation, les admissions. Et quand on voit les admissions, là, pour le coup, en fait, elles sont relativement stables, voire même à Paris, on a maintenant 65%, enfin, en 2019, on était passé de 61 à 65% d'admissions en licence. Donc voilà, il y a moins de candidatures, mais plus d'affectations en licence. Et l'effet de ciseau, il est encore plus fort en Seine-Saint-Denis, puisque ce qu'on voit, c'est qu'on est passé du coup de 33% des vœux à 61% d'admissions dans Parcoursup en licence en Seine-Saint-Denis. Donc en fait, on va avoir beaucoup d'aspirations contrariées, hein, pour le dire autrement. Des gens qui vont faire moins de vœux en STS, enfin plus de vœux en STS, BTS, et puis qui en fait se trouvent plus souvent affectés en licence. Voilà. Bon, après, il y avait une dimension genrée que je ne commente pas là. Et finalement, du coup, ce Parcoursup, des collègues l'analysent comme une politique de gestion des risques, avec beaucoup de gens qui travaillent comme Allemand Midi sur la question des angoisses, de la file d'attente, etc. Et il y a aussi un autre enjeu qui est présent dans les médias, que vous avez peut-être croisé, qui est la question des effets de classement. Les gens, en fait, maintenant, on parle de rang de classement, faut connaître, enfin, vous savez où vous êtes dans la file d'attente, vous voyez remonter dans la file d'attente, les gens se connectent tous les jours pour voir, voilà, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, combien j'ai de j'aime, de like, de machin. Bah, là, voilà, tous les jours, vous voyez sur les réseaux, sur Internet, si vous montez, vous descendez. Et il y a aussi des gens qui racontent en entretien, alors dans des recherches qui ne sont pas les miennes, mais celles d'Allemand Midi, par exemple, qu'ils ont fait des vœux pour tester, pour renforcer leur estime d'eux-mêmes. Donc, par exemple, bon, j'ai un bon dossier scolaire, j'ai posé des vœux dans telle et telle prépa, je vais bien voir si on me prend. En fait, je ne veux pas vraiment faire ça, mais ça va me faire plaisir. Si on me dit oui, j'irai pas, mais ça va me faire plaisir. Et ce qui accroît très fortement les files d'attente, en fait, du coup, pour les autres. Mais en même temps, bah, c'est une possibilité, couvre ce système aussi. Donc voilà. Alors, pour terminer, je voudrais parler un petit peu des résultats qu'on a avec Mathieu Rossignol-Brunet, dont parlait tout à l'heure Emmanuel en guise d'introduction, sur les effets un peu agrégés de Parcoursup. Là, je vais vous parler un petit peu des effets en termes de ségrégation scolaire entre les formations. Donc là, c'est simplement un premier tableau pour vous montrer que, grosso modo, entre 2016 et 2019, il n'y a pas grand-chose qui change en termes d'ordre de grandeur. Vous voyez des chiffres assez stables entre le nombre de personnes qui sont admises France entière ou Île-de-France concernant leur origine sociale ou concernant leur type de baccalauréat ou leur mention au baccalauréat. Donc, en gros, on a vérifié que ce que je vais vous montrer qui change après, ce n'est pas lié à un changement. Il y a plus de mentions très bien, ou il y a plus de bacheliers, ou je ne sais pas quoi. C'est juste, c'est stable, grosso modo. Simplement, la répartition dans les filières et les formations va bouger. D'accord ? Donc, on s'est d'abord assuré que le total ne bougeait pas, et ensuite, on va voir des petits endroits où ça bouge. Alors, graphique illisible, mais que je vais commenter. l'idée de ce graphique, c'est de montrer que entre 2016 et 2019, alors on a mis aussi l'année 2021, donc sur des pas de temps de 3 ans, on a des changements assez forts pour les licences de droit en Île-de-France. Là, vous avez des ronds bleus, c'est pour vous montrer que le taux de bacheliers généraux augmente à peu près partout. Il augmente surtout très fort sur ces années-là dans les universités où le taux de bachelier général qui arrive, donc qui est admis, hein, donc là on est sur les admissions, qui est admis dans ces universités était très faible. Par exemple, à Paris 8, en 2016, on n'avait que 36% de bacheliers généraux dans les admis en droit. C'est pas beaucoup. Et on passe à 48% en 2019 et à 59% en 2021. C'est-à-dire que le public a quand même bien changé sur le plan du bac général par opposition au bac techno-pro. Et c'est pareil à Évry, et c'est pareil à Paris 1, tout à droite, où il était déjà à 91%. On est du coup maintenant à 98-99%. Donc il augmente partout, notamment là où il était bas. Ce qui m'intéresse plus, c'est en vert. Vous voyez la part de bacheliers très bien parmi ces bacheliers généraux. Et notamment, tout à droite, vous voyez qu'à Paris 1, on passe de 27% de bacheliers mentionnés très bien ou bien parmi les bacs généraux qui sont admis, on passe de 27% à 64% l'année d'après, à 88% en 2021. Donc en fait, on est sur un public aujourd'hui en droit à la Sorbonne, c'est des bacheliers mentionnés bien ou très bien. Voilà. Bon, c'est ce qui se passe et on voit du coup que ce n'est pas tout à fait la même évolution dans les autres universités. Ça, on peut l'expliquer notamment par une évolution spatiale, géographique, qui est liée à la sectorisation. Jusqu'en 2019, la sectorisation, elle était académique. Était prioritaire pour l'Académie de Paris, les bacheliers de l'Académie de Paris, pour l'Académie de Créteil, ceux de Créteil, pour l'Académie de Versailles, ceux de Versailles. Et en 2019, on passe à une sectorisation de région académique. Il n'y a plus de priorité des Parisiens par rapport aux autres pour accéder aux formations parisiennes. Voilà. Alors, que se passe-t-il ? Donc là, on vous montre, en 2016, c'est ce qui se passe en bleu sur le graphique. En 2019, c'est après la levée de la sectorisation au niveau intra-académique. Ce qu'on voit, c'est que les bacheliers général mentionnés bien ou très bien, leur part augmente très fortement dans l'inscription à Paris. Ça veut dire qu'en fait, donc typiquement à gauche, vous voyez, ça, c'est ceux qui sont bacheliers de l'Académie de Créteil. On voit que ceux qui vont s'inscrire vers Paris, qui étaient mentionnés, on n'en avait que 21% en 2016. On en a 54% en 2019. Donc Paris aspire les bacheliers mentionnés bien et très bien de l'Académie de Créteil. Pareil, Paris aspire les bacheliers mentionnés bien et très bien de l'Académie de Versailles, encore plus que pour l'Académie de Créteil. Et on a le mouvement inverse, donc avec une pompe redistributrice. Les bacheliers parisiens qui ne sont pas mentionnés bien et très bien, on peut se rendre compte qu'eux, du coup, se font refouler, puisqu'il n'y a plus de place dans les filières les plus sélectives, vers les formations de Créteil et de Versailles. On a aussi, mais je vais finir là-dessus ou quasiment là-dessus, on a aussi une manière de regarder ça avec des cartes. En gros, en haut, là, c'est l'aire de recrutement de Paris 2 à Sas. Et vous voyez qu'en 2016, donc à gauche c'est 2016, à droite c'est 2019, j'ai refait les cartes pour 2021, c'est sensiblement pareil. À gauche, du coup, on est sur une sectorisation académique qui est très nette. Hein, vous voyez que Paris, on voit bien la frontière du périphérique, quoi. Et à droite, on voit que d'un coup, hop, Paris 2 à Sas va aller recruter notamment à Saint-Germain-en-Laye, voilà, dans le 92. Donc on voit que l'aire de recrutement s'étend de l'autre côté du périphérique. Et de l'autre côté, donc Paris 5, c'est un petit peu spécifique parce que c'était pas tout à fait le même statut, ni les mêmes capacités d'accueil que Paris 1 et Paris 2 en droit. Mais on voit que pour d'autres universités comme Nanterre ou Cergy, il y a aussi un mouvement de conquête de l'espace parisien ou d'autres espaces académiques dans les recrutements, puisque là, du coup, Nanterre et Cergy, c'était deux universités de l'Académie de Versailles, donc qui recrutaient plutôt à l'ouest de la région. Et on voit que leurs aires de recrutement, du coup, elles se diversifient, elles vont aller toucher Paris, le 93, voilà, parfois même des zones assez éloignées qui sont accessibles en fait en RER. Voilà. J'en arrive à la conclusion. Donc mon idée aujourd'hui, c'était de vous montrer que c'était intéressant d'avoir une lecture que j'appellerais socio-géographique des plateformes en regardant les candidatures, les admissions, les inégalités à travers ces différentes dimensions. Mais aussi qu'à travers les plateformes, ce qu'on peut voir, c'est comment les vœux sont construits, comment du travail de sélection est fait à partir de normes scolaires, notamment la question de la linéarité, etc. Ce qui pose la question du mérite, hein, comment est-ce qu'on l'objectif par des notes, la place des lettres de motivation, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes et importantes. Et finalement, comment est-ce que ces plateformes, ce sont des instruments de gouvernement comme l'était la carte scolaire, enfin comme l'est la carte scolaire actuellement. Et pour terminer, je voulais juste vous dire qu'on a une recherche qui commence là avec Ambre Guichard, Mathieu Rossignol-Brunet et Séverine Chauvel sur mon master, dans le cadre du GTES du CEREC. On travaille sur les filières de STAPS et on essaie de comprendre, à partir d'entretiens avec des membres des commissions d'examen des vœux, d'évaluation des vœux, ce qui a changé la plateforme. Donc essayer de comprendre comment les concurrences entre filières se sont modifiées pour ces formations, comment le nombre de candidatures a bougé avant, après la mise en place de la plateforme, et est-ce que leur manière de sélectionner a changé aussi. Et notre manière de travailler, c'est d'aller regarder justement ce que fait cette CEV, son travail concret, donc c'est un peu une sorte de sociologie du travail, du travail d'évaluation, comment est-ce que sont analysées les candidatures. Qu'est-ce que sont les critères d'un classement juste? Est-ce qu'on donne plus de poids à la motivation, plus aux notes, etc. La place du localisme? Est-ce qu'on va donner un petit coup de pouce à ceux qui candidatent de la licence locale ou pas? Voilà. Et puis justement, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi des conflits qui seraient révélateurs au sein de ces CEV, puisque peut-être que tous les membres ne sont pas d'accord sur les ordres de classement. Est-ce qu'on négocie pour certains candidats, sur quelle base, etc. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Je m'arrête là, mais je vous mettrai mon diaporama à disposition si vous voulez.